Salut les fous du volant, le triptyque sur le continent américain s'est achevé par le Grand Prix du Brésil, remporté par Max Verstappen, 17e victoire de la saison pour le Néerlandais. Eh bien vous savez quoi ? On va pas trop en parler aujourd'hui Stéphane, juste quand même souligner ce chiffre complètement fou, 17 victoires sur 20 Grands Prix, un ratio complètement dingue.
Ouais, je suis sûr que sur le passé... un épisode d'une victoire précédente de Verstappen, personne ne s'en apercevrait.
C'est clair.
On a l'impression de se répéter, donc on ne va pas en faire des caisses.
Exactement.
Mais impressionnant quand même.
On va plutôt évoquer la troisième place de Fernando Alonso, acquise de haute lutte face à Sergio Pérez. C'est le retour d'Aston Martin sur le podium après une éclipse plutôt, de plusieurs mois. On évoquera aussi les malheureux d'Interlagos, Ferrari et Mercedes qui n'ont pas existé durant ce Grand Prix alors qu'on attendait les flèches d'argent après des performances prometteuses à Austin et à Mexico. Et puis on parlera d'Alpine. Les deux autos ont terminé dans les points pour la 8e fois de la saison. Et dans le même temps, on sent Pierre Gasly prendre désormais la mesure de sa monoplace et peut-être aussi de son coéquipier. On parlera justement du rapport de force entre les deux Français. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors, on commence ces fous du volant en revenant quelques secondes quand même sur cette 17e victoire en 20 Grands Prix pour Max Verstappen. Il en reste deux à aller chercher pour le Néerlandais. Bon, de toute façon, ça y est, il a quitté le mythique 51 de Prost. Il est en route vers Vettel.
Coincé entre deux quadruples champions du monde quand même, il y a pire hein, dans une carrière de pilote de Formule 1. Ce qui m'a impressionné quand même, c'est que on l'a vu démarrer en deuxième position de la course au sprint. Et là, il a plongé vers l'intérieur. C'est la cinquième plus petite valeur, le run, entre la grille et le premier point de freinage au Brésil. Et là, on s'est dit, il est avantagé. Bah non, le lendemain, en fait, il part sur la bande roulante de la première place. Et c'était terminé. On l'a tout de suite compris. Donc, ça veut dire qu'on peut le mettre dans différentes situations. Ouais, il ne lui arrive à rien.
Exactement voilà. Comme au Mexique. C'est ce que j'avais dit. Au Mexique, il partait de la deuxième ligne pour la course sprint. On avait dit, ah ouais, mais c'est un avantage de partir de la deuxième ligne. Le lendemain, il part de la pole et personne ne le double.
Ouais, tout à fait. Donc, il est assez incroyable. Le petit regret, simplement, c'est que Norris aurait pu le challenger un petit peu autrement. Il tente deux fois, il y a deux situations chaudes où il essaie de le passer par l'extérieur et on comprend que quand il y va, en fait, c'est mort. Et bon, bah tant pis quoi, mais je m'attendais à Norris un peu plus incisif parce qu'il a une collection maintenant impressionnante de deuxième place.
Oui,
c'est lui qui a le plus de podiums sans victoire et je m'attendais à quelque chose de plus percutant. Bon, à partir de là, bah, Verstappen a filé vers son destin une fois de plus. Sans être inquiété.
Alors nous, on va plutôt s'intéresser à ceux qui ont fait la course, hein, finalement. Ceux qui se sont bagarrés, et notamment Fernando Alonso, qui est allé chercher une troisième place. Premier podium depuis le Grand Prix des Pays-Bas, après un duel au couteau, j'ai presque envie de dire, avec Sergio Pérez dans les derniers tours. C'était magnifique entre les deux hommes. Et il y a en plus de tout cela, une très très belle image après dans la zone mixte, ce qu'on appelle la zone mixte, la zone où ils font les interviews, où les deux hommes se sont carrément enlacés.
Oui, oui.
Il y a eu une très très belle image, c'était plein de sportivité, plein de respect entre Sergio Pérez et Fernando Alonso. Le week-end n'avait pas très très bien commencé pour Fernando Alonso,
médias, avec un coup de gueule.
On commence par ça direct.
Fait Allez. Courir le bruit en fait d'une inversion, d'un échange de baquets entre
justement Pérez et Alonso.
Alors la course a montré qu'il n'y avait pas besoin d'échanger de baquets en fait. C'est ça maintenant l'enseignement. Et il a menacé tout simplement en fait de conséquences entre guillemets. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois là, c'est là où on retrouve un petit peu le Fernando Alonso un peu intrigant. La double personnalité ou
un peu menaçant.
Oui, alors on ne sait pas ce que ça voulait dire. Il a juste envie un petit peu de nettoyer le paddock de Formule 1 de ces gens qui balancent un petit peu des rumeurs comme ça. Mais en fait,
il va avoir du boulot.
elle a pris de l'ampleur parce que Red Bull Espagne
l'a retweeté,
voilà, tout simplement. Et là, c'est parti tout de suite comme une fusée. Alonso, il a ensuite été assez controversé dans cet accrochage lors de la qualification du sprint le samedi.
Esteban Ocon.
Mais moi, je ne comprends pas vraiment la manœuvre qu'il fait. Il check ses rétroviseurs et puis quand même, il oblique vers l'intérieur du virage, là où va arriver Ocon. Il le voit arriver, et je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce que c'est pour lui rendre la vie un petit peu plus difficile? Mais il y avait encore de la place, mais c'est juste, il y en a qui font ça quand même. Hein. Je ne sais pas, c'est pour le moins ambigu, mais derrière, quand on regarde bien les images, au moment où il commence à obliquer, je pense que Ocon prend peur, et là il perd la voiture, et c'est le crash.
Moi, j'ai quand même le sentiment que Esteban, il perd un tout petit peu la voiture.
Ah, mais il la perd,
au même moment, et ça va tellement vite, je ne suis pas convaincu. Bref, il n'y a pas eu de sanction, on ne va pas refaire l'histoire. Ça l'a quand même handicapé pour la course sprint, hein, évidemment, oui. Parce qu'il est parti loin. Et en même temps, je me demande si ça ne l'a pas un petit peu aidé, parce que du coup, il n'y avait rien à gagner pendant ouais, cette ça. Course sprint. Donc, toute l'énergie, toutes les ressources en termes de pneumatiques étaient aussi mises sur le dimanche pour Fernando Alonso, qui auparavant, donc, puisqu'on rappelle le principe, hein, la qualification du Grand Prix du dimanche se déroule le vendredi après-midi, avec une fin de qualification assez rocambolesque, et il se retrouve en deuxième ligne, devancé par son coéquipier Lance Stroll. Mais bon, les deux Aston Martin en deuxième ligne, c'était quand même un bon coup à jouer pour l'Espagnol.
C'est ce qui alimente un petit peu sa légende. Là, ils étaient au fond du trou depuis 4-5 meetings. Facile,
ah oui, clairement.
Hein, sur les 11 derniers Grands Prix, il avait fait un podium simplement et 6 podiums sur les 8 premières courses. Donc, c'était extrêmement contrasté comme deuxième partie de saison. Et là, ça alimente un petit peu sa légende parce qu'il revient au top comme ça. Mais il se fait battre par Stroll. On se dit, ah oui, mais alors c'est le métier quand même. Il est sorti en premier. Et ça l'a avantagé. Il a tout de suite compris qu'il fallait faire un chrono. Bon, ça, c'est, je te dirais, Gilles, un petit peu pour la légende, parce que l'année dernière, dans les mêmes conditions, quand Magnussen s'est sorti assez vite et avait fait sa pole position, Alonso faisait partie des pilotes piégés, comme beaucoup. Donc, on aime bien broder un petit peu autour de ce garçon-là, qui ne laisse personne indifférent, et ça, c'est l'essentiel. Mais en course, franchement, il a fait un job extraordinaire.
Super départ.
Il commence par passer Hamilton sans le DRS, et puis là, c'est parti, il est installé en troisième position, il est loin, il est assez loin du deuxième, ce qui fait qu'il a quand même de l'air assez propre, et puis il fait sa vie, gère ses pneus, et moi j'étais persuadé quand même qu'il allait lâcher cette troisième place, il l'a lâché à la fin.
Oui, il la lâche, et il la reprend effectivement à Sergio Pérez avec un superbe duel entre les deux hommes. J'ai envie de te dire, Alonso, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on appelle un renard de surface en football. C'est-à-dire qu'il est là, pendant tout le match, on lui fait pas une passe, on le trouve pas, et à un moment, il a la balle, il est dans la surface, il plante un tir et c'est au fond. Et ben c'est Alonso. Ça fait plusieurs meetings que l'Aston Martin, elle était un peu à l'envers. Les dernières évolutions qui étaient amenées par l'équipe de Mike Crack, ils n'arrivaient pas à les faire fonctionner. Au point finalement de carrément prendre des pénalités pour changer la voiture, sortir la voiture du régime de parc fermé.
C'est ce qu'ils avaient fait aussi à Austin quand la voiture ne marchait pas du tout. Ils avaient introduit par erreur presque lors d'un meeting avec course sprint un nouveau package qui ne fonctionnait pas. Donc là, ils étaient revenus en arrière. Ça, c'était peut-être une décision poussée par Fernando Alonso. Et puis là, effectivement aussi, il avait décidé de garder simplement quelques pièces du nouveau package. Et ça, c'est pas quelque chose qui est rare. Tu te souviens, Romain Grosjean aussi, quand ça ne marchait pas du tout chez As, à un moment donné, il avait dit, mais redonnez-moi la version Alpha, la voiture.
C'était sur le châssis d'avant.
Ils avaient tout enlevé, et puis ça allait mieux. Ouais. Et on se demandait pourquoi est-ce que cette voiture ne s'était pas améliorée avec toutes ces pièces. Et si, en les enlevant, tout ou presque, on n'allait pas retrouver quand même une forme un peu plus décente, parce qu'ils avaient du mal à sortir
en tout cas plus contrôlable.
C'était assez incroyable.
Et on a le sentiment que c'est ce qui est arrivé chez Aston Martin, et on a fini par comprendre sans doute là comment faire fonctionner les dernières évolutions, et ça lui a permis donc d'aller se battre. Après, il y a l'expérience, il y a la grinta.
Et puis surtout, c'est qu'il s'est très très bien gérer, utiliser les atouts de sa voiture, oui. La récupération d'énergie, et puis là c'est un véritable scénario. Moi j'y crois pas dans l'avant-dernier tour,
c'est fini.
Doubler, on dit c'est fini,
c'est terminé. Et lui aussi d'ailleurs il le dit en conférence d'après-course, il dit bon là à ce moment-là j'ai cru que c'était fini, et puis j'ai quand même vu qu'il y avait peut-être un freinage sur lequel je pouvais jouer, et j'ai attendu le dernier tour, et effectivement c'est passé. Tout ça, Stéphane,
mais avec
à 42 ans.
Oui, mais t'as vu la La photo finish aussi.
Oui.
On en voit en cyclisme, ça se joue à un boyau près. Et là, on nous sort quand même l'une des premières photo finish de l'histoire de la Formule 1. Ça se joue à une longueur de voiture près.
Oui.
C'est folklore quand même.
Finish, c'est...
Et là encore, c'est pareil. C'est un petit peu, tu vois, on est encore dans le roman Fernando Alonso. Et je te laisse imaginer ce qu'on dirait aujourd'hui si Fernando Alonso avait fait la saison chez McLaren, avait sorti cette voiture de sa
torpeur.
Ouais. La Williams, pareil, par rapport à ce que réussit à faire Albon depuis le début de la saison, là on aurait dit, mais on lui aurait élevé une statue, certainement. Et puis Haas, quand même, qui a fait aussi quelques jolis coups, bon, on l'aurait crédité. Enfin bref, Fernando Alonso, ça marche à tous les coups.
Bah oui, ou pas. Ou pas, parce qu'il y a quand même eu une sacrée période d'éclipse. Et puis, bah, je mentionnais son âge, il a quand même maintenant 42 ans, Fernando Alonso. Bah, c'est la preuve qu'au final. C'est peut-être pas si physique que ça, la Formule 1.
Alors, moi, j'ai deux exemples.
Ou alors, il est très, très fort.
J'ai deux exemples contrastés. Je me souviens que Nigel Mansell a gagné son dernier Grand Prix au volant de la meilleure voiture du plateau en 1994 à 42 ans. Et on se souvient aussi que pour Schumacher, ça avait été quand même assez difficile la dernière saison. Lui, il avait 43 ans. Et qu'il y avait des imprécisions dans son pilotage, on sentait qu'il n'était plus exactement là, qu'il ne sentait plus la voiture et que ça jouait beaucoup sur ses prestations. Et ces derniers temps, je pensais qu'Alonso avait un peu perdu son mojo. Franchement, qu'il y avait quelque chose, un ressort qui était cassé.
Je crois qu'il ne le perdra jamais. Cette grinta qu'il a, dès qu'il sent qu'il y a un coup, elle revient, elle est là, elle est toujours présente dans son esprit. Et moi, je suis désolé. On a vu au Qatar un vrai Grand Prix de Formule 1 avec des pilotes qui emmenaient leur voiture à fond de leurs possibilités parce que de toute façon le nombre de tours était limité et qu'il n'y avait pas de, gestion des pneus à faire. Or là, le Brésil, ça n'a été que de la gestion des pneus. Donc finalement, des pilotes qui sont un petit peu plus âgés,
oui.
Physiquement, et s'ils s'entretiennent, ils tiennent parfaitement le coup. Et ils ont un capital d'expérience énorme dans lequel aller pêcher pour résister à tel ou tel endroit. En conférence de presse, on lui a même demandé si ça lui avait pas rappelé son duel avec Michael Schumacher en 2005.
Oui.
Et il a dit oui. Après, c'était plus compliqué parce que en 2005, il n'y avait pas le DRS. Et si je m'étais fait dépasser en 2005, c'était terminé. Ouais, là, je savais qu'avec le DRS, j'avais une chance de reprendre l'avantage. Il est assez incroyable. Et alors, c'est vrai qu'il a des déclarations qui, de temps en temps, sont un peu agaçantes parce qu'il te dit quelque chose qui est extrême dans un sens. Et puis,
il t'explique qu'il ne fait pas de politique.
Hein, non.
Il lance pas des rumeurs comme ça discrètement. Bon, donc, mais c'est, encore une fois, ça fait partie du personnage.
Ça fait partie du personnage.
Et
heureusement, qu'on en a quelques-uns comme ça plutôt que certains qui nous disent voilà, l'eau est tiède, la pluie, ça mouille. Bon, ok, d'accord.
Tout à fait.
Tu veux rajouter quelque chose ?
Non. C'est j'ajoutais un point sur l'expérience que tu as citée parce qu'avec une seule séance d'essai libre pour tout mettre en place. Là aussi, c'est payant. Et si tu arrives à mettre le doigt sur le bon setup, bah derrière, c'est parc fermé. Tu ne peux plus toucher à rien. Mmh. Et tu fais avec ce que tu as. Et habituellement, c'était la double punition, comme à Austin. Et là, ils ont réussi à inverser la tendance. Et c'est, je pense, aussi tout à son mérite. Stroll en a bien profité aussi, parce que Stroll fait une belle course.
Ouais.
Hein, il termine cinquième à quoi, même pas 15 secondes d'Alonso. Donc ça veut dire que la voiture fonctionne bien aussi, et pas seulement qu'avec Alonso. Et ça, c'est ce qui est important dans une équipe.
Il termine même à 6 secondes hein, de Fernando Alonso, notre ami.
Ah, 6 secondes,
Alonso.
Bien sûr.
Donc, c'est à peu près. 6 secondes, c'est à peu près une réponse de
c'est
Lance Stroll au
c'est
micro de nos amis
vagues.
De la télé.
Oui, tout à fait. C'est clair.
Il a le temps de répondre en 6 secondes. Il a le temps de faire le résumé de son Grand Prix, voire même de sa saison.
Je l'attends à chaque fois parce que il rappellera peut-être Raikkonen, mais Raikkonen était une minute barricadé derrière ses lunettes de soleil et puis avec que des réponses oui non, puis tu sais, il se frottait dans le dos comme ça quand la question vraiment l'agaçait quoi. Et Stroll, il se marre un petit peu parce qu'il rigole et dit bon ça va pas durer longtemps, il bâcle ses interviews, mais à chaque fois c'est un petit peu différent, voilà. Mais il s'est bien positionné, je trouve, dans l'équipe, ça compte aussi.
Il n'y a que 21 points de retard pour Aston Martin sur McLaren. On les disait perdus pour la patrie. On avait dit qu'il ne reviendrait plus. Bah, 21 points de retard, deux Grands Prix. Si là, ils ont mis le doigt sur quelque chose qui marche, ce qu'on voit quand même chez Aston, c'est que quand la voiture fonctionne, Stroll, il n'est pas à des années-lumière. Clairement, il n'a pas la vitesse de pointe de Fernando Alonso, mais il est là. Alors que chez McLaren, Piastri, il a quand même beaucoup souffert ce week-end.
C'était sa première quand même à Sao Paulo. C'est difficile, même si le circuit est court, je ne pense pas qu'il soit
ça sera sa première à Las Vegas aussi.
À prendre, bien sûr, comme tous les pilotes. Mais la question que je soulèverais plutôt chez Aston Martin, c'est maintenant quid de la voiture de 2024.
C'est toute la
Parce
question.
Parce que les pièces qu'ils avaient rajoutées, ce fameux package qui n'a pas fonctionné à partir d'Austin, il est reparti à l'usine. Et puis là, ils ont pris quelques pièces, mais vraiment, ils y vont à tâtons. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur... maintenant, la configuration de la voiture 2024, et là, je trouve que Dan Fallows commence à être un petit peu
le chef aérodynamicien.
Alors, l'ex-chef aérodynamicien de Red Bull, qui est passé directeur technique d'Aston Martin, donc c'est lui qui a fait cette voiture qui, d'emblée, a très très bien fonctionné, mais maintenant, il faut la faire évoluer, la bonifier, et ça, c'est plus compliqué. On avait reçu dans les fous du volant Guillaume Roclin, à qui on avait posé la question, qu'est-ce qui fait la force d'Adrian Newey en tant que designer? Eh bien, il avait dit... Il comprend la globalité de la voiture et nous on a quand même du mal et il a toujours un coup d'avance, il sait précisément où est-ce qu'il y a de la réserve de performance et ce qu'il faut modifier dans une voiture pour la faire progresser. Et le problème de Dan Fallows, je crois que c'est là, on va voir s'il atteint une sorte de plafond de verre, parce que quand tu arrives avec les secrets de fabrication d'Adrian Newey, ça t'aide à faire une bonne base, mais ensuite il faut la faire évoluer et c'est là-dessus qu'on va le juger.
Alors, on verra ça pour la suite déjà, pour la fin, les deux derniers Grands Prix de la saison. Et évidemment, on attend avec impatience le début de 2024 pour voir comment ça se passera du côté de chez Aston Martin. Alors, du côté d'Interlagos, il y a pour moi deux équipes quand même qui ont particulièrement souffert et on les attendait quand même un peu, Mercedes et Ferrari. Je ne sais pas si tu es d'accord, Stéphane. On commence par Mercedes qui avait gagné l'année dernière, qui était plutôt en forme à Austin et à Mexico et qui avait l'occasion quand même de reprendre des points importants. On pense notamment à la bagarre pour la deuxième place du championnat entre Lewis Hamilton et Sergio Perez. Et ça a été vraiment la douche écossaise pour Mercedes. Huitième place à l'arrivée du Grand Prix pour Hamilton. Abandon pour George Russell. En fait, pour résumer de manière un petit peu sarcastique, Mercedes a fait une sorte de grand chelem de la loose. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à, ils ont quand même réussi à faire manque de performance sur la voiture, usure des pneumatiques et problème de fiabilité.
Ils ne sont pas plantés dans la stratégie. Ils pouvaient faire quand même un petit peu mieux, entre guillemets. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont souffert. En fait, ils ont fait exactement l'inverse de Mexico où Hamilton avait obtenu une belle deuxième place.
Ouais.
La voiture était nulle part le vendredi. Hamilton avait dit c'est un cauchemar. Et là, le vendredi, en fait, chez Mercedes, on dit on est content de nos relais, de nos mesures. On n'use pas trop les pneus. Enfin, ça va bien, la voiture fonctionne bien. Ils étaient optimistes. Et Hamilton dit on a fait des changements avant la qualif qui ont rendu mauvaise, vraiment. Et puis, je te parlais de cette histoire de parc fermé sur les week-ends de course sprint. Eh ben, quand tu es parti dans une mauvaise direction, c'est la double peine. Le samedi et le dimanche, tu ne peux rien faire.
Alors, et soit tu la joues à la Aston Martin et tu sors du parc fermé et tu prends la pénalité et tu pars derrière, quitte à avoir une chance de remonter, ce qui aurait peut-être été possible.
Mais quand tu es qualifié quand même dans le top 5, top 6... malheureusement, c'est pas ce que tu peux faire.
Quoi, c'est sûr.
C'est pas comme quand tu es 15e. Mais Hamilton a dit les pneus surchauffaient trop. Nous étions lents dans les lignes droites, dans les virages.
Toto Wolff a dit... tu commences à être lent dans les virages et dans les lignes droites, c'est que tu vas pas très vite.
Fort, tout à fait. Et Toto Wolff a résumé ça en disant on a un problème en fait, qu'il y a trop de traînées sur le concept aéro de la voiture. Donc, c'est compliqué. Et puis, ils avaient relevé un petit peu aussi la hauteur de caisse par sécurité, parce qu'il y a des bosses à Sao Paulo et qu'ils ne voulaient pas risquer.
Ils sont vraiment traumatisés avec cette histoire.
Mais bien sûr, mais là encore, ils s'accrochent à la deuxième place du championnat. Et ce qui les tient, c'est les 20 points qui les séparent de Ferrari. Donc, ils n'ont aucune marge de manœuvre. C'est ça le problème.
Ouais.
Et que si ça part mal, ils ne peuvent pas se dire allez, on met tout en jeu, on part de la pit lane et puis on va se refaire. Non, c'est terminé. Quoi.
Et les pilotes et le patron de l'équipe ont eu des mots très très forts. C'est rare d'habitude quand il y a une contre-performance. Souvent, les patrons sont là. Oui, on va apprendre de nos erreurs. Là, Toto Wolff, c'est une performance inexcusable,
Très médiocre.
Oui,
il a précisé.
Oui. George Russell a sorti des choses aussi en disant que c'était le pire week-end de l'année. Toto Wolff, il a même ajouté la voiture, elle ne mérite pas de gagner une course. Cette voiture ne mérite pas de gagner. Enfin, je trouve que c'est des termes très fort Et effectivement, ils n'ont pas existé
Hamilton,
encore.
Hamilton, à un moment donné, à la radio, il dit « Je suis dans son DRS à Gasly ouais. et j'arrive même pas à le rattraper. » C'est hallucinant. Le DRS, normalement, il donne entre 15 et 20 km/h de bonus.
Particulièrement voilà. plus puissant à Interlagos.
Tout à fait.
Presque trop, d'ailleurs.
Alors, tu parlais de partir de la pit lane. C'est ce qu'avait fait Hamilton en partant sur une position reculée. Il avait fait une remontée fantastique en course sprint et puis il avait gagné.
L'année dernière.
Mais ça, c'était 2021.
Oui.
Mais parce que le résultat du sprint était pris en compte pour constituer la grille de départ, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, tu n'as plus autant de marge. Non, il n'y a rien à faire. Et la chose quand même qui a bien réussi Mercedes, c'est la stratégie de Lewis Hamilton parce qu'il résiste à Checo Pérez. Pérez finit par le dépasser et là il rentre tout de suite au stand et derrière Pérez met deux tours pour rentrer lui aussi au stand et bah, qu'est-ce qu'on voit, Hamilton a fait l'undercut mmh. donc ils se sont battus avec les armes qu'ils avaient et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal.
Bah, c'est rare que Mercedes
dans ce
fasse un coup stratégique à Red Bull.
Tout à fait, et cette année, c'est vrai qu'ils se sont quand même loupés sur quelques grands prix, c'était assez étrange. Et on avait dit, alors pas moi, mais dans un épisode précédent des Fous du Volant, qu'ils avaient un petit peu subi un déclassement, que ce n'était plus exactement la même grande équipe qu'auparavant. Et ça se voit aussi sur les interventions au pit stop. Ils sont moins agressifs, ils ne réussissent pas les temps que réussissent Red Bull. Red Bull qui a fait le meilleur temps ce week-end encore avec Verstappen. Pour la deuxième fois de l'année, mais
alors
généralement, ils réussissent voilà, avec Checo Pérez. McLaren est devenu aussi agressif. Et là aussi, ils ont perdu un petit peu le fil dans ce domaine-là. Donc, ça veut dire qu'il faut tout un petit peu remettre en place. Mais je n'aimerais pas être à leur place là, aujourd'hui, parce que quelle définition de la voiture pour 2024
ah, c'est
ça le problème. Mais... Là, ils nous serinaient qu'ils allaient dans la bonne direction, que tout ce qu'ils mettaient en place au niveau des pièces, ça fonctionnait bien. Mmh, et c'était pour l'année prochaine. Bon, ben là, maintenant, c'est quid. Mais bon, je pense
qu'ils ne sont pas les seuls
dans ce cas-là. Ils ont changé complètement de concept. Donc, finalement, ce qu'ils enregistrent là aujourd'hui sur cette voiture, je pense que c'est même pas pertinent. Mais Lewis Hamilton, à propos de cette W14, sa monoplace de cette année, a sorti exactement les mêmes mots que pour la voiture de l'année précédente. Il a dit Dieu merci, il ne me reste que deux grands prix à piloter cette chose. Voilà. Quand même, bon, je ne sais pas combien coûte une voiture de Formule 1, une monoplace, mais c'est dire le peu de considération qu'il a pour cette voiture. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est que Russell a quand même perdu son sang-froid à la radio. Alors, je me suis dit, ce n'est pas la désunion de façade. On dit, est-ce qu'on court ensemble ou pas ? C'est le principe, c'est ça. On essaie de ne pas se gêner, etc. Et Russell essayait de rester dans le DRS d'Hamilton et il le trouvait trop agressif dans les virages 11 et 12. Et là, en fait, il appelle pour dire, écoutez, il faut le calmer parce qu'autrement, je vais décrocher et ça ne va arranger personne. C'est un petit peu de ça dont il se plaignait. Puis à un moment, on lui dit, mais économise tes pneus. Et là, il commence à rétrograder, à perdre une position. Et puis, il appelle en disant, alors, on fait la course ensemble ou je gère mes pneus. Et on lui demande de gérer ses pneus. Et là, il dit, je vais encore rétrograder. Et donc, il est un peu chafouin quand même, Russell. C'est la première fois qu'on le voit comme ça. Et depuis quand même 4-5 Grands Prix, il a un petit peu perdu l'ascendant qu'il avait par rapport à Hamilton à un moment de la saison. Et là, c'est pareil. Ça devient un petit peu, c'est pas tendu, mais on est un petit peu sur ses gardes.
Plus de stress, oui,
tout à fait. On est un peu stressé chez Mercedes. On ne lui connaissait pas cette facette.
Mauvais week-end aussi pour Ferrari. Ferrari qui avait finalement choisi de faire l'impasse sur la course sprint le samedi. Hein, on n'avait pas pris les pneus qui théoriquement. Alors si, enfin, on n'avait pas mis des pneus neufs pour la course sprint. En fait, on a mis toute l'énergie pour le Grand Prix dimanche, sachant que Charles Leclerc devait partir deuxième sur la grille, il y avait toujours cette ambition d'aller chercher une victoire et au moins un podium.
Mais résultat assez contrasté quand même de la qualification et Fred Vasseur a sorti une demi-excuse concernant la 8e place de Carlos Sainz parce que en Q3, tout le monde donc en fait va dans la file d'attente pour attendre le feu vert pour partir pour faire un chrono. Le ciel est sombre, le vent forcit, donc tout le monde comprend qu'il va falloir mettre un chrono en banque assez vite. Ce que va arriver à faire Leclerc et beaucoup moins Sainz qui est qualifié 8e. Et là, Fred Vasseur dit, mais en fait, on a subi notre position sur, dans l'allée des stands, parce qu'on était le plus éloigné, le garage éloigné
de
la sortie des stands, et d'autres en ont plus profité. Alors, c'est vrai que Aston Martin, ils étaient plus vers le fond, vers la sortie, parce qu'ils étaient mal classés l'année dernière. Ça se décide en fonction des positions au championnat constructeur de l'année précédente. Bon, ce qu'il oublie de dire quand même, c'est que Verstappen a quand même fait la pole position, alors qu'il avait une position encore plus
éloignée. Je voulais pas t'interrompre, j'attendais qu'il termine.
Voilà, tout à fait. Donc ça peut s'expliquer, mais en partie seulement. Donc, effectivement, ce qui est un petit peu dommage, c'est que Leclerc s'est privé d'un set de pneus tendres pour la course du samedi. Il l'a gardé pour le dimanche, et puis effectivement, on a vu que c'est pas allé loin.
Problème d'électronique apparemment, hein, sur la Ferrari de Charles Leclerc dans le tour de chauffe, qui doit donc abandonner, et une discrète sixième place pour Carlos Sainz. C'est pas la première fois cette année qu'une Ferrari n'est pas sur la grille de départ.
Alors, c'est deux no-shows cette année pour Ferrari, puisqu'il y avait eu un problème de réservoir d'alimentation en essence pour Carlos Sainz au Grand Prix du Qatar. Donc, ça fait la deuxième fois. Et c'est simplement la deuxième fois dans l'histoire de Ferrari que une telle situation arrive. En 2002, Barrichello avait subi deux non-départs, deux no-shows, à cause d'un problème d'électricité en Espagne, un problème d'électronique au Grand Prix de France. Et Jean Todt, qui a eu l'occasion de s'exprimer ce week-end, a dit qu'en 1996, il avait eu aussi ce genre de problème avec une casse moteur pour Michael Schumacher dans le tour de chauffe du tour de formation du Grand Prix de France. Mais là, le V10 était entièrement nouveau, c'était autre chose. Et là, il dit, normalement, ça ne devrait pas arriver aujourd'hui. Mais ça, il a mis un petit taquet quand même gentil à Fred Vasseur. Alors, Fred Vasseur, il en pose que depuis janvier, tu ne peux pas tout changer.
Et on utilisait un moteur par course à cette époque-là.
Oui, bien sûr, mais
là on en a quatre pour toute la saison. Hein.
Alors, ils doivent tenir certainement, mais il y a un souci là-dessus chez Ferrari et qui doit être réglé, parce que ça leur arrive plus souvent qu'à leur tour. Et puis je pense qu'ils ont perdu vraiment une grosse occasion de revenir vraiment sur les talons de Mercedes. Il y a toujours 20 points d'écart au championnat, je crois.
Ouais, c'est ça. Hein, 20 points tout rond. 20 points tout rond entre Mercedes, deuxième du classement des constructeurs, et Ferrari. 20 points et deux grands prix encore à négocier.
Ouais,
c'est pas un détail de terminer deuxième ou troisième du classement des constructeurs.
Si c'est 20 points à reste, il les traîne jusqu'à la fin, on saura où les trouver de toute façon.
Ah, bon, ça oui, clairement. À suivre, mais évidemment, énorme déception pour Charles Leclerc. On va voir ce que diront. On n'a pas, au moment où on enregistre ce podcast, on n'a pas la raison très très précise de cet abandon, en tout cas de ce non-départ du Monégasque. La sixième place de Carlos Sainz nous indique quand même qu'il y avait quand même difficilement de quoi rêver pour ce Grand Prix du Brésil. Alors, c'est chez Alpine, finalement, que ce Grand Prix du Brésil a tiré quelques sourires, notamment de Pierre Gasly. Alors bon, la qualification vendredi est compliquée, la journée de samedi difficile.
Qualif compliqué, plus de place sur la grille parce que...
grosse boulette quand même, on traîne trop sur la piste.
Et on avait dit que ça leur arrivait quand même un petit peu, c'est souvent question opérationnelle. Non-respect des VMAX dans vitesse maximale autorisée dans la pit lane, etc. Que Gasly avait commencé l'année avec beaucoup de points retirés sur sa super licence, ça s'est calmé aussi. On joue sur le fil de rasoir, et là, ils n'avaient pas besoin de ça,
non.
Mais ils se sont fait prendre comme Russell, le troisième pilote. Mais ça s'est bien terminé.
Ouais, alors il part 15e sur la grille, Pierre Gasly, et il remonte jusqu'à la 7e place. Et ça a attiré un petit peu notre attention, parce que on s'est demandé s'il n'y avait pas une tendance de fond chez Alpine en faveur de Pierre Gasly, et donc logiquement aux dépens de Esteban Ocon. Deux chiffres même pour souligner ce point. D'abord au classement, Pierre Gasly a 62 points. Malheureusement, il s'est fait dépasser par Lance Stroll à l'issue de ce Grand Prix du Brésil, et il est désormais 11e. Mais quand même, un total de 62 points pour Pierre Gasly, et désormais 46 pour Esteban Ocon, qui avait fait une bonne partie du championnat devant son coéquipier, notamment grâce à son podium obtenu à Monaco. Mais depuis quelques temps, la tendance s'est inversé et assez lourdement hein, sur les 8 derniers Grands Prix. En fait, on a pris depuis la reprise après l'été, donc depuis le Grand Prix des Pays-Bas, Pierre Gasly a accumulé 40 points et Esteban Ocon n'en a marqué que 11. On est quasiment dans un rapport de 1 à 4. Et ça, c'est aussi souligné par un rapport de force aussi en qualification à l'avantage de Pierre Gasly.
Quand on regarde sur les 20 séances de qualif, eh bien, Gasly s'est positionné 12 fois devant Ocon sur la grille de départ. Donc ça aussi, c'est net. Et quand tu disais que tu parlais de tendance, moi, pour moi, maintenant, c'est réglé. Gasly a pris le pouvoir chez Alpine, c'est lui le patron. Alors, il y a quelque chose qu'il faut relativiser simplement par rapport aux points que tu as précisé, 62 pour Gasly, 46 pour Ocon. Au nombre des abandons, Gasly a abandonné 3 fois cette année, Ocon 6. Donc ça pèse quand
oui,
même
clairement.
Aussi. Hein, il n'y a que 16 points d'écart, normalement c'est plié. Et Ocon était un petit peu sur la corde raide. J'ai trouvé, moi, ce week-end dans les médias, d'abord par rapport à son accident avec Fernando Alonso, sur lequel il n'a pas vraiment voulu revenir en détail. Comme tu dis, il perd la voiture. Alonso fait un petit mouvement devant lui. Alors, bon, à ces vitesses-là, quand même, c'est troublant. Hein, et on ne peut pas lui reprocher d'avoir perdu la voiture. Mais je crois qu'elle a des circonstances atténuantes. Mais il ne voulait pas parler de ça. Il a mis la faute sur Alonso. Et puis à la fin, au bilan de la course, il a dit tout simplement aussi qu'ils avaient trop de dégradation sur les pneus. Ils avaient été obligés de passer sur 3 arrêts. Ils étaient les seuls dans ce cas-là. Et c'était une voie sans issue de toute façon. Si, il a quand même gratté un point. Mais c'était en rien la course qu'avait fait Gasly, qui termine 7e. Il avait un problème d'une extrême usure sur le pneu arrière droit qui a conditionné vraiment tout son week-end, là, clairement. Et quand on vient un petit peu à Gasly, il avait fait aussi une belle course sprint, une belle passe d'armes avec Fernando Alonso le samedi, même si ça s'était terminé sans points. On l'avait vu quand même pugnace. Et je trouve que ça, c'était vraiment un comportement de leader. Et dans l'équipe, bon, apparemment, ils sont un petit peu plus détendus. Il y a plus de sérénité. Il y a plus vraiment. Il y a rien à perdre. Il y a rien à gagner.
Oui, c'est ce
plus,
que j'allais te dire.
Hein, par rapport
au championnat,
ils sont dans une sorte de no man's land où ils n'ont plus rien à craindre, plus rien à espérer. Mais ça se termine plutôt bien maintenant. Et puis il y a des choses aussi qui arrivent, qui sont assez intéressantes, comme le recrutement d'un nouveau directeur technique moteur, Éric Maignan, un ancien de Ferrari et de Mercedes. Et on dit merci qui ? Eh bien, je pense qu'on peut dire merci Otmar Szafnauer, qui a été lui-même remercié.
Oui.
Voilà, viré, pour ne pas dire les choses comme elles sont.
Et pourquoi on remercie
Parce qu'il arrive là, Éric Maignan, très bientôt à Viry-Châtillon, et je pense que le recrutement date de quelques mois.
D'accord.
Et que c'est Otmar Szafnauer qui avait mis ça en place. Alors, bon.
Otmar Szafnauer, on rappelle.
La confirmation.
Otmar Szafnauer débarqué le week-end du Grand Prix de Belgique.
Oui,
c'était donc
juste avant la
trêve estivale. Et c'est à partir de ce moment-là, je trouve, que Pierre Gasly est monté en régime. Alors, je ne veux surtout pas mettre en relation le fait que Szafnauer était avant chez Force India, tout comme Esteban Ocon. Mais forcément, le départ de Otmar Szafnauer, ça a impliqué d'autres changements dans l'équipe. Et je pense que Pierre Gasly, qui avait eu du mal à s'installer, forcément, les changements, ça déstabilise plus celui qui est déjà en place que celui qui est en train d'essayer de trouver sa place. Et Pierre, il a vraiment eu un... On l'a senti un déclic à ce moment-là. Il faut aussi le temps de trouver le langage commun avec son ingénieur, hein, Karel Loos, qui est un ingénieur belge et qui s'occupait
très expérimenté,
qui s'occupait auparavant de Fernando Alonso, qui s'est aussi occupé de Daniel Ricciardo. Il faut trouver comment se parler. Tout ça. On a le sentiment que la mayonnaise a fini par prendre,
oui.
et que maintenant ça va de mieux en mieux.
Tu as parlé de l'éviction d'Otmar Szafnauer au soir du Grand Prix de Belgique, ça avait fait un bad buzz fantastique.
Bien sûr, clairement.
Et là, je trouve que ça permet quand même de tourner la page. Et puis, quand tu vois que...
Puis, il y avait eu les rappels à l'ordre de Luca De Meo aussi, hein, qui avait parlé de dilettantisme et tout. Enfin, il y avait des mots qui étaient quand même...
C'était Laurent Rossi qui avait parlé de dilettantisme.
Mais Luca De Meo était retourné aussi quelques semaines plus tard à Enstone. Il en avait remis une couche.
Pour resserrer les boulons. Et donc, ça veut dire que quand tu as quelqu'un comme maintenant Mac Elliott, qui était le numéro 2 de la technique chez Mercedes, qui a été remercié lui aussi il n'y a pas très longtemps pour ses mauvaises voitures en 2022 et 2023 qui est sur le marché, tu peux pas être insensible à ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas le remettre dans un poste de directeur technique parce qu'il a besoin d'être drivé par quelqu'un qui lui donne un cadre et il travaille dans ce cadre là, c'est à dire chef designer ou directeur de l'ingénierie.
Ouais.
Enfin, c'est des gens comme ça qui sont autour de la fabrication, autour de la conception et qui optimisent les pièces, mais je ne sens plus une sorte de défiance. Je ne dirais pas un discrédit, mais en tous les cas, je pense que pendant une certaine période, après le Grand Prix de Belgique, ça ne tentait pas beaucoup de monde dans le paddock d'aller chez Alpine, parce qu'on disait qu'est-ce que ça va devenir.
Ouais.
C'est la révolution permanente.
Ah, ça ressemblait à une équipe qui était en train de piquer du nez et qui n'allait pas se relever. Bon, là,
tout
on sent quand même qu'il continue de se passer des choses.
Je trouve vraiment qu'il y a des motifs d'être positif par rapport à ça et de construire pour l'avenir, à voir. Et puis, dans le même temps...
Et ça, il faut quand même rendre hommage à Bruno Famin, qui est monté finalement en grade au pire moment.
Mais qui reste directeur d'équipe par intérim.
Par intérim,
précise bien Alpine, ça veut dire que potentiellement, il cherche quelqu'un d'autre pour prendre en charge le fonctionnement au quotidien de l'équipe.
C'est
parce qu'il y a un projet aussi qui est assez séduisant en WEC qui se met en place avec Alpine, etc. Donc, il y a beaucoup de travail. Il s'est déjà déchargé du travail de la direction technique moteur à Viry-Châtillon. Donc, il commence à tout repositionner bien. Je pense que ça sera en place à partir de l'année prochaine pour avoir vraiment quelque chose de cohérent et d'avancer. On espère avec des progrès. Et pendant ce temps-là, quand même aussi, tu as des petites rumeurs. Hein, comme quoi Audi, par exemple, s'intéresserait à Ocon.
J'ai eu peur. J'ai cru que tu allais parler de rumeurs sur Fernando Alonso, parce que là, j'allais te dire, fais gaffe, tu vas avoir des problèmes. Ocon, tu peux y aller.
Oui. Mais alors, c'est peut-être entre guillemets, la mauvaise nouvelle, parce que Ocon, il est encore en contrat chez Alpine jusqu'en 2024. Et Mercedes, apparemment, a jeté son dévolu sur un jeune Italien. Alors, Gwen Lagru nous en avait parlé,
oui.
Nous en avait dit le plus grand bien en début de saison, avant même le début de saison, en parlant de ce jeune Italien qui était promis un grand avenir, qui va faire le saut pour schématiser Formule 4, Formule 2 l'an prochain, et qui serait le successeur de Lewis Hamilton, parce que Norris est verrouillé par McLaren, des gens comme Piastri aussi, les super pilotes sont déjà bookés, et Mercedes se dit, bon, on va faire, nous, avec les pilotes qu'on a. Et n'oublie pas une chose, c'est que Esteban Ocon est un pilote, entre guillemets, Mercedes, géré par Mercedes, sa carrière est gérée par Toto Wolff. Il n'est pas en prêt parce qu'il a signé chez Alpine, mais Ocon le dit aussi ouvertement, il peut revenir chez Mercedes, mais je ne pense que ça n'arrivera plus.
Mais là, la rumeur dont tu parles avec Esteban Ocon, ce n'est pas du tout Mercedes.
Non, c'est Audi. Audi qui avait dévisé sur Lando Norris et Carlos Sainz. Alors, Fred Vasseur a envie de garder, il a dit le plus grand bien qu'il pensait de Carlos Sainz. Norris a re-signé chez deux ans de plus chez McLaren, donc là c'est fermé.
Norris maintenant il va regarder chez les top teams, il ne regardera
tout à fait.
Pas.
Donc là maintenant la question va peut-être se poser pour Ocon, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il franchit le pas, et je pense que faudra regarder ça et décider ça au printemps prochain, au début de saison prochaine, parce que histoire de pas se retrouver sans pilote. Qui claque la porte, hein, comme un Fernando Alonso.
C'est ce que j'allais dire, ça me rappelle
un truc. On regarde le marché, qu'est-ce qu'il y a comme pilote disponible, ça devient un petit peu compliqué, donc il faudrait être proactif par rapport à ça, mais je trouve que c'est un événement suffisamment important et qui referme l'histoire d'Ocon et de Mercedes, et on verra ce que ça devient, s'il reste chez Alpine, ou s'il tente ce challenge d'une écurie d'usine, pour le coup, assez puissante, qui a fait des choses formidables en championnat du monde d'endurance, et au Mans.
Alors on verra, parce que il y a d'autres rumeurs d'ailleurs qui concernent notamment Audi en Formule 1. Mais comme on n'est pas youtubeur et qu'on ne dit pas n'importe quoi avant d'avoir un peu gratté sur le sujet, on va essayer d'en savoir un peu plus pour vous en parler. Il nous reste encore quelques semaines. Hein. Il y a deux Grands Prix. Là, on va faire une pause quand même. On va avoir un week-end sans Grand Prix.
Sans décalage
horaire.
Tu fais le bilan du dimanche. Verstappen n'a pas gagné aujourd'hui.
Oui, bah, peut-être qu'il est capable de gagner même quand il n'y a pas de Grand Prix. Il faudra se méfier. Tu sais, nos confrères de la presse écrite ont tellement pris l'habitude de dire victoire de Max Verstappen que ça se trouve, dimanche soir, ils vont écrire victoire de Max. Ça va partir tout seul. Ah mince, il n'y a pas eu de Grand Prix. Et donc, ça veut dire qu'on n'a même pas d'horaire à vous donner pour terminer ce podcast cette semaine. Ouais, on va souffler. C'est Kimi Antonelli, voilà. Je cherchais le nom du jeune italien.
Andrea Kimi Antonelli. Je l'ai pas cité.
On a dit Kimi, mais on n'a pas dit Antonelli. Voilà. On en termine là-dessus. Voilà, on va pouvoir faire une petite pause. Et puis après, attention, va falloir que tu mettes ton habit de lumière. Là, toute ta chorégraphie que tu as travaillée, j'imagine que c'est pour nous faire une petite danse country.
Les pattes d'air à la mode, fais attention. Et puis, les lunettes de soleil. C'est clair, on va en prendre plein les yeux. On reviendra là-dessus la semaine prochaine, mais ça sera, on nous promet un petit peu le Grand Prix ultime.
Quand je vois le circuit, j'ai un peu peur.
Voilà, deux mondes, c'est le cochon à l'envers, c'est ça
hein oh, ouais,
Oui, ils ont parlé de ça. Non, c'est la Formule 1, enfin, la FIA s'occupe de ce qui se passe sur la piste, et puis le promoteur du championnat vraiment soigne tout ce qui se passe à l'extérieur. Et on nous explique quand même de plus en plus que ce qui se passe à l'extérieur du circuit est plus important, ou est très important. On va voir, on va franchir un nouveau cap à Las Vegas, apparemment, donc on verra ça.
Qu'est-ce qu'on va voir? On avait eu une marina en plastoc du côté de Miami.
Mais c'était sympa, moi ça m'avait amusé.
Avec la toile cirée de mamie, on peut croire que c'était l'océan. Bref, on verra ça. Allez, on se sépare là-dessus, on se retrouvera la semaine prochaine, on se mettra dans l'ambiance de Las Vegas. On verra de quoi on parlera d'ici là, il va bien y avoir quelques petites news qui vont tomber. Et d'ici là, Stéphane,
on coupe le contact.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.